France Culture, rue des Écoles, Grand Amphi.
Les écoles de commerce ont le blues. Mi-novembre, l'Institut Montaigne leur a consacré un rapport très critique, pointant les limites de leur modèle économique, mais aussi pédagogique. Les business schools, comme elles aiment à s'appeler, se revendiquent comme le fleuron de l'enseignement supérieur français, mais elles seraient à bout de souffle, voire au bord du déclin, Marie-Caroline.
Oui, alors comment expliquer cette déprime et surtout comment se traduit-elle ? Parce que ces écoles sont soumises à une compétition internationale très très poussée, évidemment. Elles ont de la peine à s'ouvrir socialement. Elles sont soumises aussi à la pression des classements. Bref, elles sont en surchauffe et c'est ce que nous dit l'Institut Montaigne. C'est du moins la thèse qui est avancée par ses auteurs, Édouard Husson, ancien directeur de l'ESCP Europe, bonjour, et Jean-Michel Huet, consultant chez Biric Point.
Et je précise que l'Institut Montaigne est un think tank, un laboratoire d'idées, généralement classé libéral, même s'il n'aime pas beaucoup qu'on dise ça en général, les chercheurs qui travaillent pour l'Institut Montaigne.
Et vous pouvez retrouver le rapport sur le site de l'Institut Montaigne.
Donc, première question.
Alors, l'État, c'est le grand coupable quand on lit votre rapport. Puisque d'après vous, il aurait délaissé les écoles de commerce en attribuant la plupart des financements ces dernières années aux universités, notamment dans le cadre du grand emprunt. Ce qui ne laisse pas de nous étonner, parce que n'est-ce pas justifié que l'État donne un coup de pouce aux universités qui ne pratiquent pas tout à fait le même droit d'inscription que les business schools ?
Alors, ce n'est pas ce que dit le rapport. On ne dit pas que l'État est le grand coupable. On dit qu'il y a un cloisonnement du système français. Quelquefois, c'est entre la recherche et les universités. Là, c'est entre des établissements qui sont soit privés, soit dépendent des chambres de commerce, qui sont des établissements publics, elles, et d'autre part, les universités. Et donc, c'est un fait, vu que la participation au projet du grand emprunt était faite sur la base du volontariat, on rentrait dans des projets en y allant à plusieurs. De fait, il n'y a pas eu beaucoup d'incitations. Bon, HEC dans le beau projet Saclay, il y a quelques autres belles participations, mais on n'y a pas pensé. Et c'est pour mettre en valeur le fait que les écoles de commerce ont beaucoup fait pour s'internationaliser par leurs propres forces. Ensuite, si vous parlez de la question des droits, elles n'ont pas d'autre choix, vu que les financements publics qu'elles reçoivent sont très bas, elles n'ont pas d'autre choix que d'avoir des droits étudiants élevés.
C'est un modèle bien particulier, puisque les écoles de commerce, au départ, ont été co-créées par les chambres de commerce et d'industrie. Et juste pour donner une idée à nos auditeurs, pouvez-vous nous rappeler le montant des droits pour une école comme HEC, par exemple ?
Aujourd'hui, c'est aux environs de 11-12 000 euros pour une année en master de management. C'est à peu près là, on est à peu près dans la moyenne. Il faut voir simplement que si ces écoles devaient équilibrer leur budget par leur seule force, elles seraient obligées de mettre des droits à 17 000 ou 18 000 euros. C'est simplement pour que vous ayez ces chiffres-là en tête. Donc, il faut du soutien. Il y a du soutien, il y a des bourses, il y a l'État aussi qui soutient par la taxe d'apprentissage ou par d'autres moyens. Mais voilà, on repose la question du business model parce que les droits sont déjà tellement élevés qu'on a passé la limite du supportable et puis il n'y a pas assez de boursiers.
Et vous rappelez d'ailleurs que les frais de scolarité en moyenne ont augmenté de 50 à 70% depuis 2006 dans les trois business schools parisiennes. C'est gigantesque, et de 45% à l'EM Lyon. Alors, qu'est-ce qui justifie des besoins de financement aussi importants et en si peu de temps ?
C'est qu'il y a un véritable mercato des professeurs notamment. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les écoles de commerce françaises se portent bien. On n'est pas alarmiste par rapport à ça. Par contre, on rappelle que c'est quand même dans les classements internationaux, les établissements d'enseignement supérieur français qui sont les mieux cotés. Ce n'est pas les écoles d'ingénieurs, ce n'est pas les universités, c'est les business schools qui sont un peu la référence internationale de l'enseignement supérieur français. Par contre, là où il y a une difficulté, c'est que la concurrence est internationale. Il y a 12 000 business schools dans le monde. Je vais donner juste deux chiffres. HEC, c'est 110 millions d'euros de budget annuel. Harvard Business School a 3 milliards de dollars sur son compte en banque. Et aujourd'hui,
Milliards.
Donc, grosso modo, les intérêts annuels de Harvard Business School, c'est à peu près le budget d'HEC. Or, aujourd'hui, les grandes écoles françaises sont en concurrence aussi avec ces gens-là. Il y a plus de 1000 business schools en Afrique, 2000 en Inde, 1500 en Chine. Il y a une vraie concurrence internationale. Et aujourd'hui, et c'est ça notre message dans le rapport, c'est de dire l'actionnaire, entre guillemets, historique de ces écoles, que sont les chambres de commerce, n'ont plus de moyens. Donc, elles n'ont plus les moyens d'aider au développement international et concurrentiel de ces écoles.
Mais ce n'est pas les entreprises qui devraient participer davantage au financement plutôt que l'État qui est aussi pauvre.
Tout à fait. Là, vous êtes pile sur un de nos points. C'est de dire que ce sont les entreprises, les diplômés aussi, d'aider leur ancienne école. Sauf qu'aujourd'hui, ces écoles sont sous la mainmise des chambres de commerce et des potentats locaux, comme on les appelle, et qui ont du mal à s'inscrire dans une gouvernance nouvelle, comme le font les écoles américaines ou européennes, qui sont ouvertes aux diplômés ou aux entreprises.
Alors, Jean-Michel Huyet et Édouard Husson, vous proposez une solution dans ce rapport qui concerne la mixité sociale, dont on a largement parlé dans la première partie de l'émission, qui est une grande difficulté que rencontrent les écoles de commerce. Et vous proposez en gros que l'État puisse donner de l'argent aux écoles de commerce si celles-ci s'ouvrent socialement. En tout cas, de conditionner cette aide financière à une plus grande ouverture sociale. Donc, de l'argent pour accueillir plus de pauvres, en gros.
Pourquoi dévaloriser pour accueillir plus de talents ?
C'est ça
l'enjeu.
Pourquoi on aurait besoin de le conditionner ?
Vous savez,
En
matière de talent, il n'y a pas de pauvreté ni de richesse. Il y a des dons. Et des dons, il y a des potentiels. Donc notre idée, c'est de permettre à un pays qui a des talents extraordinaires et certains qui ne se développeront jamais, d'avoir accès à ces écoles qui sont très internationalisées. Mais pourquoi ? Parce que c'est un effort collectif. C'est quelque chose. Ce sont des choix stratégiques. Et quand on disait tout à l'heure, vous parliez de l'État négativement, mais nous, ce qu'on dit dans le rapport, par exemple, c'est que les classes prépa, c'est l'État qui les finance. Et les écoles en profitent beaucoup. Donc il semble juste que dans les années d'école, là, il y ait un conditionnement à l'aide, au soutien de l'État, parce que la communauté nationale tout entière s'engage pour soutenir des étudiants qui le méritent et pour permettre à tous les talents français de se déployer dans ce secteur, c'est une belle chose. À l'inverse, effectivement, si une école ne fait aucun effort là-dessus, il n'y a pas de raison qu'elle soit soutenue. Mais on revient toujours à la même question. Il y a un besoin d'engagement très fort, de moyens, de concentration des moyens pour des écoles qui sont des joyaux de notre système éducatif et qui, aujourd'hui, vont bien, mais dans 10 ans, risquent de décrocher.
Nathalie Limon, sociologue à l'université, vous avez 30 secondes.
Oui, non, mais je trouve le diagnostic et puis la solution tout à fait étonnante. C'est-à-dire que si on considère le coût d'un étudiant à l'université, on est loin... loin, très loin, en dessous des 17 000 euros que vous citez en école de commerce, parce que nous, il n'y a pas un prof pour 30 étudiants, il y a un prof pour 500 étudiants dans les premières années. Donc le diagnostic me semble
aujourd'hui,
assez étonnant.
Aujourd'hui, il y a très peu de décalage entre l'étudiant
et la solution, alors là, encore plus étonnante, c'est-à-dire que les universités, là oui, je vous assure, il y a la mixité sociale et la mixité scolaire. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse demander de l'argent supplémentaire à l'État pour des étudiants qui coûtent déjà extrêmement cher à la collectivité, tout ça pour faire de la mixité sociale. C'est très étonnant.
À partir des années d'école, il ne coûte rien à la collectivité, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de raison non plus que ces écoles-là soient brimées par rapport au reste du système, alors qu'elles apportent les meilleurs résultats pour la compétitivité française.
Et puis, dans nos solutions, on n'a pas qu'une solution, on a plusieurs. Et on dit aussi que ceux qui doivent, entre guillemets, mettre la main à la poche, notamment pour aider sur les bourses et aider les étudiants boursiers, c'est les diplômés, les anciens et les entreprises. Encore une fois, moi je fais partie d'une commission bourse d'une grande école, il y a des cas très durs, et ce qu'on veut aider, c'est les gens qui ont les talents, mais là, ce n'est pas forcément les moyens, et surtout pas qu'ils arrêtent leurs études.
Voilà qui est plus raisonnable.
Merci beaucoup, Édouard Husson, Jean-Michel Huyet et Nathalie Mons, et merci Louis Touré.